Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
De quoi est fait un artiste? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le singularise des autres hommes et qui le relie à eux en transmetteur de beauté, de mystère, d'humanisme? C'est une réflexion sur la création, sur son aspect mystique, sur l'espace entre le sacré et le profane, mais aussi un récit au gré de la fantaisie de l'auteur qui livre ses réflexions les plus originales et qui nous parle tout simplement de la vie. Il s'agit du roman intitulé « La nature exposée », édité par Gallimard, et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Éric de Lucas. Bonjour Éric de Lucas.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous, c'est un privilège parce que c'est la première fois que je reçois dans cette émission.
Merci à vous de m'avoir invité.
Voilà, alors votre nouveau roman, je vais en faire un bref résumé si vous permettez. Est-ce que l'introduction vous paraissait correcte? Vous avez eu peut-être pas trop le temps de l'entendre, ce que j'ai dit en exergue.
Oui, ça va.
Ça va.
Ça va, ça va.
Alors, il s'agit d'un sculpteur, connaisseur des chemins de montagne, un montagnard, qui fait passer la frontière à des clandestins. Il va lui être proposé de restaurer la statue de Jésus-Christ en croix, une œuvre digne d'un maître de la Renaissance. L'Église veut en effet que soit enlevé le périsonium, c'est-à-dire le pagne, pour retrouver l'identité d'origine de la statue. Alors là, c'est vraiment le bref résumé pour nos auditeurs.
Mmh. Une seule objection
oui.
que je fais sur le mot clandestin, parce que personne au monde est clandestin, et il s'agit toujours de destin. Et dans ce cas des voyageurs d'aujourd'hui, ce sont les pires destins en circulation.
Oui, alors n'y voyez aucun aspect péjoratif quand j'ai dit clandestin, mais c'est vrai qu'en règle générale, ils se cachent quand même.
Ils se
sont obligés de se cacher.
Ils se cachent parce qu'ils sont. Il y a une interdiction de voyage qui est une interdiction sauvage et injuste, spécialement pour des personnes qui sont en train de sortir d'une ville incendiée, dans une maison brûlée.
Tout à fait. Et qui font le trajet dans des conditions abominables.
Oui, nous sommes contemporains du pire transport maritime de l'histoire de l'humanité.
Absolument.
De voyager si mal, même pas les esclaves entraînés de l'Afrique vers les Amériques. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient de la marchandise qui était vendue et payée à la consigne.
Donc il fallait qu'elle soit en bon état.
Il fallait la faire arriver dans des conditions acceptables. Par contre, ça, nous sommes dans une époque où les déportés paient très cher leur propre déportation, et donc ils paient en avance, et c'est marchandise qui peut être jetée à la mer parce que n'est plus rentable.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais vous dire à ce propos, nous sommes pas encore dans votre roman. Si,
non.
On y est de toute façon. Mais le 23 mai, dans notre bonne ville de Toulouse, il y aura une lecture de Une autre Odyssée, Requiem pour les morts en Méditerranée. C'est imaginé par Alexandros Markeas et la main harmonique. Vous avez entendu parler de ça?
Non.
Non, voilà. Bon, donc oui, vous faites bien d'en parler, on en parle, on se sent impuissant, mais enfin il faut manifester de toute façon. Et on peut parler, à un moment donné d'ailleurs, moi j'ai fait le rapprochement, c'est vrai qu'il y a ces gens qui essaient d'entrer dans nos pays, en Europe, et dans l'autre sens, il y a des touristes qui paient pour aller à l'extérieur dans des conditions extrêmement confortables. Il y a deux voyages dans des sens, deux projets différents, deux vies différentes.
On peut rencontrer sur la mer Méditerranée, dans le canal de Sicile, des radeaux comme ça qui sont à la dérive.
Vous êtes allé
à la dérive.
Vous êtes allé dans ces lieux?
Oui, je suis allé dans ces lieux. Je suis allé à Lampedusa. Et le mois prochain, je suis avec Médecins Sans Frontières, avec leur nouveau bateau Prudence qui fait des opérations de secours dans la Méditerranée. Hier, ils sont rentrés au port de Trapani avec 540 personnes sauvées dans la mer.
De la noyade, oui. Bien, Merci de nous en avoir parlé. On en reparlera peut-être au cours de cette interview. J'ai fait l'amalgame, j'ai dit le narrateur est un passeur dans les deux sens. Il est passeur de personnes, je dirais pas clandestins donc, mais de personnes immigrées qui ont fui leur pays pour différentes raisons. Il est passeur également comme tous les artistes, je dirais. Les passeurs de beauté, passeurs de talent.
Il est un passeur. Quand il accompagne les voyageurs de la malchance d'aujourd'hui. Et qui ne se laisse pas renfermer dans les endroits il se laisse pas arrêter par des montagnes, parce que les montagnes sont pas des murailles, sont pas des obstacles. Les montagnes sont, je le sais en tant qu'alpiniste, le plus grand réseau de communication non contrôlable et non contrôlé entre les versants.
Oui.
Différent. Donc, ils se laissent pas arrêter par le bloc de la rue à Ventimiglia ou au Brennero.
Oui. Oui, vous savez que les Pyrénées, qui ne sont pas très loin d'ici, étaient un lieu de passage également des Juifs, souvent de familles juives qui passaient en Espagne par certaines vallées que nous connaissons. Hein, c'était un lieu de passage. Quand même pas facile pour tout le monde.
Hein. Pas facile, pas pour tout le monde, mais quand même, il y a le passage.
Oui.
Et les Pyrénées ont été la voie de fuite des militants de la guerre civile espagnole quand ils ont perdu la guerre civile.
Dans l'autre sens, effectivement. Oui. Voilà, alors donc, moi je disais que ce narrateur est un passeur dans les deux cas. Bon, et c'est un homme qui a cette originalité... Il se veut libre, ça c'est pas original, pauvre et fraternel, et également anonyme. Alors déjà, y a plusieurs choses qui frappent dans cet ouvrage. Cet homme a besoin de solitude.
Il est grandi dans une vallée presque aveugle, ou qui n'est pas une vallée de passage, donc il y a on reste toujours entre les mêmes personnes. Et tout à coup, il arrive dans cette vallée un flux d'étrangers mystérieux qui ont besoin de passer de l'autre côté. Donc sa solitude, son isolement, que c'est un isolement géographique.
Il n'y a pas quand même chez l'artiste, alors revenons à l'artiste là, est-ce qu'il n'y a pas ce besoin quand même d'une forme de solitude? Le créateur, je dis l'artiste, le créateur, même le romancier.
Le romancier, je ne sais pas, comme font les autres. Pour moi, c'est une facile question d'isolement. Je peux m'isoler partout.
Même dans un café.
Dans un café, dans un tram, dans un bus, un train, partout. Je peux m'isoler partout. J'ai une bonne capacité d'isolement que j'ai beaucoup améliorée pendant ma vie ouvrière. Pendant ma vie ouvrière, j'avais un temps pour ma tête isolée, détachée du travail que j'étais en train de faire avec le corps.
Avoir une bulle, un monde
intérieur. Et ça me permettait aussi d'arriver à la fin de la journée sans regarder la montre pour voir quand allait terminer la journée.
Alors, ce sculpteur, il a aussi donc ce besoin, alors également, de rester anonyme, c'est-à-dire qu'il ne veut pas de gloire. On en parlera encore parce qu'il rencontre une femme qui va le lui reprocher. Il y a un dicton français qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Mais je crois qu'il existe en italien aussi.
Si, mais d'abord c'est un mot grec. C'est un mot d'un philosophe grec, d'Épicure, qui dit « latébiosas, vit en cachette ».
Voilà, alors vous l'avez dit dans votre livre, mais moi je l'avais écrit avant. Voilà. Il a une... je me disais, c'est quand même très curieux ce personnage, très intéressant, très original. Il a une vie affective un peu étonnante, parce que je parlais de solitude tout à l'heure, avec les femmes, il n'a pas l'air très, très attaché aux deux femmes qu'il rencontre. Il les laisse partir sans aucun effort. Alors je me suis dit, est-ce que c'est de l'humilité ? À un moment, il dit, je ne me sens pas capable, je crois, de garder quelqu'un. Comment est-il ? Comment vous le voyez, vous ?
Je le vois comme je vois moi-même aussi. Je ne suis pas capable de souffrir à quelqu'un. Et donc, à quelqu'une, vraiment, dans mon cas. Et donc, je sais qu'il y a cette insuffisance m'empêche d'être jaloux et de retenir par force quelqu'un qui a le désir de poursuivre sa vie.
Alors, est-ce que c'est de l'humilité ? Peut-être.
Non, c'est la reconnaissance d'une condition d'infériorité.
Eh bien oui, l'évidence. C'est ça l'humilité d'une certaine manière, non,
je ne sais pas. Connais mon condition d'infériorité face à une femme.
Vous voulez dire que vous ne sentez pas capable
de souffrir à une femme, oui. Ça, c'est mon expérience.
Oui. Oui, parce qu'il laisse partir là, le personnage sans faire d'effort, on a ce sentiment. Et pourtant, à un moment donné, il dit, il n'y a plus d'amour, plus de désir, elle a tout emporté.
Oui.
Bon, il y a un manque.
Elle a tout emporté, mais le manque est quelque chose lequel on sent le manque.
Non. Oui.
Mais si quelqu'un ne sent pas le manque, il ne connaît pas le manque. Pour moi, c'est le contraire. Parfois, je sens la présence de personnes que j'ai perdues.
D'accord.
Et donc, c'est le contraire du manque, c'est la présence.
Oui.
Le retour de cette personne et de sa empreinte laissée dans ma vie.
On le sent également par rapport aux personnes qu'on a aimées qui sont mortes.
Oui, exactement ça. Vous parliez de ça.
Si. D'accord.
Il y a un désir récupérable.
Oui.
Ou des absences non justifiées.
Oui.
Parce que j'ai pas justifié leur départ.
Mmh. Mmh. Alors, avec elle, il se sent maladroit, pas apte, mais... avec les hommes déracinés, les rescapés, là, il va agir. Alors, évidemment, on se dit, c'est un homme de cœur, il met en avant son courage et la fraternité également. La fraternité, moi j'aime bien ce mot, fraternité.
Moi aussi.
Voilà. Bon, et puis il y a ce désintéressement matériel. Alors je me suis dit, moi je suis comme la première femme qu'il rencontre, je me suis dit, mais enfin, il est doué, alors c'est de l'art pauvre. J'ai découvert, grâce à votre livre, que l'art pauvre, ça vient de l'italien, au départ. Moi je connais des artistes qui pratiquent l'art pauvre. Vous pouvez dire un mot de cela à nos auditeurs ?
Si, arte povera est commencé dans les années 60, donc en quelques ateliers italiens, comme ça, mais...
Oui.
Mais c'était aussi une influence américaine qui était présente déjà.
Ah oui, c'est de donner de l'importance à des choses, des objets qui ont
des matériels, s'il y a des matériels
récupérés,
c'est insignifiant.
Voilà. Alors lui, il récupère par exemple du bois, ce qui est quand même assez noble, mais un peu tout.
Des bouts de bois qui donnent des suggestions des lettres qui commencent. Il fait des noms des lettres avec des pierres et du bois. C'est une activité que je fais toujours moi-même. Quand je vais en montagne, je regarde par terre et je ramasse
des formes parfois un peu particulières. Alors, lui, il y a chez cet homme un désintéressement matériel total. Il lui suffit de peu. Sur le plan pécuniaire, il n'a pas de gros besoins. Il a une forme, justement, là aussi, d'humilité. Il peut vivre sans peu de choses. Il n'a pas de grandes exigences.
Oui, mais c'est toute une vie dans laquelle il s'est traité comme ça. Et donc, ce n'est pas un choix. Ça a été son éducation obligatoire dans son ambiance, dans son pays, petit village.
Vous dites que ce n'est pas un choix. Moi j'aurais compris que c'était un choix chez lui. Il m'est sympathique parce que je me dis, tiens, il vit comme ça, il a fait ce choix, puisqu'il a un don, c'est certain, tout le monde lui dit qu'il a un don. Mais il ne veut pas l'exploiter, il ne veut pas gagner de l'argent avec, finalement.
Non, mais c'est un petit argent qui peut recueillir avec ses œuvres minières, ses manufaits de petite taille minière, presque insignifiants, qui peuvent avoir quelque intérêt pour quelques touristes, pour quelques temps de passage.
Sa compagne, sa première compagne qui va partir, à la fin, énervée, un peu excédée, peut-être qu'elle a raison, lui dit... Tu es plus qu'un artiste, tu es un créateur. Et je reste si tu... Alors je coupe. Je reste si tu décides d'être pour le monde ce que tu es déjà. Elle admire ce qu'il fait. Et lui, il ne veut pas être admiré.
Non, il ne comprend pas cette question de se faire circuler son nom. Et la seule fois où son nom circule, c'est a eu l'effet d'une expulsion. Parce que oui. un de ces personnes qu'il amène de l'autre côté, gratuitement, écrit cette histoire de son voyage avec ces détails de cet homme qui faisait passer des gens gratuitement. Et alors il devient comme une espèce de célébrité involontaire.
Oui. Et puis ça va le...
Et cette célébrité gâche son image dans son propre village. Et oui. Les autres se fâchent contre lui parce qu'il a fait connaître ce passage secret, donc il a gâché toute l'économie liée oui. à cette vallée.
Oui.
Et donc le seul moment où il est devenu une célébrité, il a été expulsé.
Mais après,
il avait raison donc.
Là il avait raison, d'accord. Là il avait raison. Mais après, ce que lui dit cette femme, sa compagne, d'un moment, elle lui dit que c'est un artiste et qu'il a un grand talent, mais lui, elle lui dit même tu as un saint respect pour ce que tu sais faire, mais un maudit orgueil à ne pas vouloir le montrer. Vous voyez que je vous ai lu phrase après phrase.
Si.
Bon.
C'est la façon de laquelle la femme le regarde. Mais ce n'est pas sa façon de se regarder lui-même.
Oui, mais Éric de Lucas, vous-même, vous êtes très connu.
Moi, je suis quelqu'un qui profite très bien de mon droit d'auteur et du fait d'être invité à parler de ça.
Oui, mais ce n'est pas par orgueil, mais c'est satisfaisant de savoir que son travail, son talent est reconnu.
Elle est connue par une femme, ça déjà beaucoup.
Oui, par ça une c'est femme vrai. Qu'elle Là, aime. On est dans les journées de la femme, je suis d'accord avec vous, c'est déjà beaucoup.
Pour lui, c'est tout ce qu'il lui faut.
Oui.
Continuer à habiter, à vivre avec cette femme.
Mais je me dis finalement, bon, il n'est pas croyant, mais je trouve qu'il est dans la droite ligne, je dirais de Saint-François d'Assise, du pape François, le refus de la richesse, le refus de la... des médias, le refus de tout cela.
Et pour refuser la richesse, il faut l'avoir.
Mais il ne cherche pas à l'obtenir, reconnaissez-le.
Non, il ne cherche pas de l'obtenir.
Il ne cherche pas à l'obtenir. Voilà. Alors, je me suis posé la question aussi, est-ce que c'est cette humilité qui fait qu'il fait appel à son frère jumeau? Il a eu un frère jumeau qui est mort très jeune. C'est son double, celui avec qui il peut parler. Et c'est celui qui pense.
Qu'il intervient dans ses pensées,
oui,
parfois.
Oui, qui intervient dans ses pensées.
Dans ses pensées, dans certains moments un peu particuliers, un peu agités de son expérience, il y a cette deuxième voix intérieure qui remonte dans son ouïe et il la reconnaît comme la voix de son petit frère, qui est mort à 6 ans, mais qui pour lui est devenu comme une espèce de frère ancien.
Oui. Il est toujours présent.
Il est présent. Il reste dans le silence, mais parfois il se manifeste dans son oui. Et il lui donne quelques conseils, quelques points de vue qui lui échappent. C'est une question pour lui d'être avec. Et dès que, par exemple, ce frère mort était manchot. Et il essaie d'employer, il emploie la main droite, mais il veut employer aussi la main gauche comme ça il peut avoir encore une condition de frère jumeau, d'utiliser les deux mains comme des mains jumelles.
Voilà, alors donc, de temps en temps, il y a la voix du frère et qui commente, qui lui donne des idées, et il parle donc aux hommes étrangers, aux hommes déracinés, aux rescapés. À un moment donné, il dit, je parle avec celui que, à moins que vous vouliez lire vous-même.
Non, non, je ne vais pas gâcher le bon travail de ma traductrice avec mon accent.
Ben, écoutez, je parle avec celui qui me répond plus longuement que par monosyllabes. J'écoute les histoires de destins bizarres, des façons nouvelles de mourir. Dans une soute asphyxiée par les gaz de moteur, gelée dans le compartiment du train d'atterrissage d'un avion, étouffée dans un camion garé l'été en plein soleil. Pour que la mort soit juste, il faut que la façon de mourir, sa manière de conclure, soit la même. Ce n'est plus, comme le dit le poète persan, que la mort est juste parce qu'elle frappe le misérable et le roi. Voilà, etc., etc. Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un homme qui, comme beaucoup actuellement, est très sensible et très choqué par ce qui se passe en France, en Italie, en France, en Grèce, un petit peu partout là actuellement, en Espagne aussi.
Mais ce personnage est tout simplement en contact physique avec cette nouveauté. Il ne la connaissait pas avant que ce flux de personnes, d'étrangers, arrive dans son village, dans son pays, qu'il faut qu'il se manifeste. Il n'est pas quelqu'un qui a des journaux ou se renseigne. Donc il est à contact de cette nouveauté et il l'apprécie, cette nouveauté, parce que c'est arrivé, c'est comme recevoir le monde chez soi. Au lieu de voyager, il le reçoit. Et donc c'est un peu pour gratitude, pour sympathie, et donc par fraternité qu'il les accompagne. Oui. Il fait la chose la plus simple pour lui. Il connaît les passages par cœur, donc il peut le faire à l'aveugle, dans la nuit ou dans le brouillard, parce qu'il c'est sa maison, la montagne.
Mmh. Oui. Donc, là, on y retrouve beaucoup de Héry de Lucas.
Je ne connais pas très bien la montagne.
Non, c'est plutôt l'escalade.
Je suis plutôt un trou dans les montagnes. Je sens ce sentiment d'être même pas un hôte invité. Je suis quelqu'un qui entre dans une ambiance d'autrui.
Oui.
C'est l'ambiance du monde où ma taille est insignifiante dans l'immensité.
Mais que vous aimez quand même.
J'aime pour admiration ce lieu qui est un lieu magnifique et aussi sévère.
Oui.
La montagne. La montagne, c'est sévère, c'est dangereuse. C'est...
Et les Pyrénées, plus encore sévères.
Les Pyrénées, je ne les connais pas. Je suis plutôt quelqu'un des Alpes. Qui connaît les Alpes. Non, les Pyrénées, jamais arrivé.
Les vallées sont plus étroites, c'est plus austère. Plus austère. Héry de Lucas, nous allons faire une pause musicale courte et nous reprenons tout de suite après.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Éric de Lucas et nous parlons de son nouveau roman La Nature Exposée. Vous l'avez bien compris, nous sommes dans les Alpes italiennes, et ce personnage, le narrateur, donc est un sculpteur. Et il se trouve que la notoriété va lui tomber dessus. Il n'aime pas les médias. Trop bavard, les journalistes.
Il ne les connaît pas.
Vous dites trop bavard. Hein,
oui. Il n'arrive pas les journaux dans ce petit village. Personne n'achète des journaux dans ce petit village.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de bureaux de tabac dans les vallées des Pyrénées aussi. Et alors, en fait, donc, on va découvrir cet homme parce qu'il a... il a un talent extraordinaire, à savoir qu'il fait passer des gens, il fait passer la frontière à des gens, et il les rembourse après avoir passé la frontière, c'est-à-dire qu'il ne fait pas payer ces gens, et du coup, les journalistes vont en être informés, et il va devenir une vedette. Et pour cela, en fait, c'est un peu le hasard, on va lui demander de restaurer une statue. Alors ça aussi, c'est quand même assez original. Il se trouve que cette statue est une statue du Christ en croix, une très belle statue. Elle doit ressembler certainement à celle qui est en photo, qui est très belle aussi. Une statue en marbre. Or, cette statue a le sexe caché, évidemment, par une sorte de pagne. Tout à l'heure, je vous ai dit le mot parce que j'ai retrouvé le mot que vous connaissez sans doute, le périzonium, qui était, c'est le pagne de pureté, on appelait ça, qui désignait le morceau d'étoffe servant à cacher la nudité de Jésus. Mmh. Voilà. Alors, je ne sais pas comment étaient toutes les statues autrefois. Celle-là était nue et l'église, à un moment donné où tout était particulièrement surveillé et caché, a demandé à ce qu'on mette ce pagne de pureté, ce périzonium. Voilà. Or, étonnamment, on lui demande, l'Église toujours lui demande maintenant d'enlever ce pagne. Donc on fait appel à un talent qu'il ignore, et là encore, acte d'humilité, il dit « je ne vais pas y arriver ».
C'est une petite restauration qu'il lui demande. C'est une restauration très délicate, mais c'est une restauration. Il n'est pas l'artiste. L'artiste est celui qui a fait cette statue de marbre de Christ. Et c'est un artiste très particulier parce qu'il a une identité physique avec le crucifix. Il le représente qu'il est encore vivant, oui. Que c'est une nouveauté, une rareté. Donc le Christ n'est pas encore mort. Donc, et c'est dans les derniers efforts de résistance à la mort.
Qui fait que d'ailleurs il a un semblant d'érection, justement c'est parce qu'il va mourir, hein, probablement. C'est l'explication qui est donnée dans l'ouvrage.
Il est en train de mourir. Donc, oui. Mais ce qui m'a frappé est l'évidence que les condamnations par crucifixion, les Romains les faisaient sur des corps nus. Ils étaient nus.
Oui.
Ils les déshabillaient.
Oui.
Et ça, c'était une...
Pour humilier.
Humiliation supplémentaire, une dégradation à l'état d'un animal dépouillé une personne. Donc, le livre s'appelle La nature exposée, parce que la nature, chez nous, en Italie, c'est le sexe.
Oui, mais le disait autrefois en France aussi.
Ah, si.
Oui.
Attends, on disait aux gamins, couvre ta nature.
Oui, non. Oui, oui.
Et c'est comme ça. Oui. Et ça, c'est une nature exposée, mais pas par exhibition, comme on peut le revoir, on peut voir dans les revues, notre image publicitaire. C'est une nature exposée par condamnation.
Voilà, pour désir vraiment d'humilier. Et vous faites le rapprochement avec ce qui se passait lors de la Shoah.
Oui,
où on mettait les gens nus.
Oui, et a été la seule époque où encore des corps ont été déshabillés pour les tuer.
Ouais. Ouais.
Par des autres, dans les autres horribles mortifications de la, des condamnations à mort, il n'y a pas cette, le fait de rendre nu le corps du condamné. Seulement dans le siècle, dans ce siècle d'où nous venons, qui s'est reproduite sur échelle de masse, cette mortification de la nudité. Mais donc, quand le drap qui couvre la nudité de Christ, c'est un drap qui censure sa souffrance, son humiliation, sa mortification. Il était, il avait honte. Il avait justement honte d'être montré nu.
Oui, sur une sur
un haut, au visage de tout le monde.
Oui. Mm-hmm.
Donc c'est une identification physique du premier sculpteur qui s'aperçoit aussi qu'il avait froid, par exemple, non? Et il a cette statue, le restaurateur, en le touchant, s'aperçoit qu'il a la chair de poule.
Oui.
En Christ avec la chair de poule, il avait froid. Il est encore vivant, donc. Il avait froid. Et donc c'est parce qu'il était exposé sur une relève de Jérusalem.
Il y avait un orage qui se préparait. Oui, il y avait du vent.
En plus, Jérusalem, c'était une ville tropicale. En hiver, il y a de la neige à Jérusalem souvent. Et la période de l'exécution, une période entre mars et avril, c'est la Pâque juive de Jérusalem. Donc, c'est un moment où faisait aussi froid. Donc, ce corps avait même froid. Il tremblait de froid sur cette. Oui. Et alors, c'est un sentiment de compassion qui se manifeste dans ce restaurateur.
Vous avez raison d'introduire ce mot de compassion, parce que finalement, il devient un frère pour lui. Il le touche, il découvre des tas de petits détails, y compris à un moment donné comme des écailles au niveau des pieds. Il le touche, il a même envie de couvrir, de le réchauffer de ses mains. Il y a une identification aussi. C'est un frère ou c'est peut-être aussi lui-même, puisqu'à un moment donné, il va vouloir même être circoncis, lui.
Oui, parce qu'il il veut se identifier avec la physicité de ce corps.
Voilà.
Il a besoin de s'identifier. La question de la miséricorde, pour moi, c'est pas que quand on regarde quelqu'un, on a un sentiment de que je pourrais être lui. Non, c'est je suis lui.
Oui.
C'est pas le conditionnel. Oui. C'est une émotion qui fait une identification immédiate et c'est une identification qui peut pas être contrôlée. C'est incontrôlable.
Quand vous dites, c'est vrai, quand vous utilisez le mot compassion, c'est souffrir avec.
Oui, c'est souffrir avec. Patir cum patire.
Oui, oui, oui. Alors. À un moment donné, même, il veut travailler dans le froid. Et il évoque, lui, qui dit qu'il n'est simplement un artisan, qui va faire un tout petit travail sur cette statue. Il ne veut même pas son nom, il ne veut même pas... Mais il dit l'artiste lui-même est mort de froid en montagne. L'artiste lui-même s'est identifié à cet homme. Et vous dites, finalement, c'est un homme jeune, un homme en pleine vigueur. Et il pensait probablement également à ces hommes jeunes qui ont été tués, tous ces jeunes hommes jeunes qui ont été tués pendant la guerre.
Oui, c'est la première guerre mondiale. Il est un rescapé de la première guerre mondiale. Et il met dans ce corps une espèce de concentration de la souffrance des corps de sa jeunesse.
Oui. Alors quand vous parlez de miséricorde, vous parlez de pardon. C'est important également cette générosité qui entraîne le pardon, l'indulgence pour un coupable, pour un vaincu. C'est à la page 42. Alors je ne sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cela, de cette idée de pardon?
C'est un acte de pardon de la qui est du Christ, du crucifix.
Oui.
Qui demandent à la divinité de pardonner.
Oui.
Et parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
C'est ce qu'il dit.
C'est ce qu'il dit. Mais le curieux de cette phrase est, et il a lui pardonné, pourquoi il demande à la divinité
Ouais.
Il demande la divinité parce que son pardon est insuffisant. Il faut que le pardon passe à travers la divinité.
Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Il faut cette triangulation avec la divinité pour rejoindre le pardon.
Oui, effectivement. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses, par exemple le serpent. Alors là vous m'avez posé une sacrée colle, hein, parce que je me disais, mais où est-ce qu'il est allé chercher cette représentation du serpent de Jésus étant, comme un serpent. Alors, je suis allée voir, et bon, on n'aura peut-être pas trop longtemps à chercher. Moïse pria le peuple, et le Seigneur lui dit, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche, etc. C'est ça l'histoire dont vous vouliez nous parler, non?
Oui,
parce qu'en fait...
Mais c'est le Christ qui fait cette citation, qui cite...
Moi, c'est Moïse. Hein.
Le serpent de... Oui, mais c'est le Christ
qui
cite,
le... Oui, qui le cite
le serpent de Moïse, comme le serpent de Moïse.
D'accord. Voilà, alors...
Il se compare au serpent sauveur.
Voilà, et il faut regarder vers le ciel, parce que le serpent est mis au bout d'une perche... Et
sauve, voilà. sauve à travers le regard à nous, voilà. Sur le bout d'une perche. Il se compare à ce serpent sauveur.
D'accord.
Et la curiosité de la langue hébraïque est que le serpent a la même valeur numérique de Mashiach, le Messie.
Oui.
Donc c'est un jeu de mots exclusivement hébraïque qui explique la valeur supplémentaire de la comparaison de la parabole de Christ.
D'accord. Voilà. Alors, on trouverait encore beaucoup de choses. Voilà. Je l'ai dit au départ, on pourrait faire 3 émissions parce que vous parlez de la ville. Alors, ce personnage est assez étonnant parce qu'il s'adapte très bien à la ville, en final, de ses rencontres avec l'ouvrier musulman. Qu'est-ce qu'il a tiré de ses rencontres avec le rabbin, avec le prêtre, avec l'ouvrier musulman? Une forme de sagesse?
Non, il reçoit des explications au sujet de ce qu'il est en train de faire. Il pour la première fois va lire les détails des évangiles sur la crucifixion, et quand il trouve des signaux sur le corps de Christ, il va demander à quelqu'un qui peut lui expliquer certains détails. Par exemple, les écailles sur son pied.
Oui. Écailles
de poisson.
Alors là, contrairement au serpent, le poisson, j'ai tout de suite compris.
Oui, parce que c'est un symbole qui regarde les catacombes chrétiennes. Le premier symbole chrétien, c'était le poisson.
Voilà.
Parce que le poisson, en grec, c'est l'acronyme de Jésus-Christ, fils de Dieu et sauveur.
Voilà.
Donc c'est un acronyme en grec qui faisait cette identification. Donc là, c'est plus facile.
Alors, je ne parlerai pas, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais du dernier passage, parce que là, on atteint le fantastique, et c'est très intéressant, la fin de votre roman, il se passe quelque chose. Mais la dernière question que je vous poserai, vous nous amenez au gré de votre plume dans un bar la nuit. La page suivante, ça va être des musées. Puis les rues comme des rivières à traverser, un libraire, les statues du Palais Royal, Épicure. Je me suis amusée à mettre en haut de chaque page un thème. Alors, est-ce que vous nous amenez au gré de votre plume ou est-ce qu'au départ, vous avez un plan dans votre tête? Comment ça se passe?
Non, je ne suis pas un organisateur de mon récit. Je suis quelqu'un qui commence à écrire une histoire gros ligne.
Oui.
Et tout à coup, l'histoire commence à réagir et me donner des souvenirs, des ramifications, des égarements que dans lesquels parfois je me perds et que je laisse tomber. Donc, ce que me plaît, c'est que quand j'écris une histoire, je suis en train de la raconter à moi-même.
D'accord.
Je ne la connais pas vraiment. Et c'est l'histoire qui se produit, qui se fait connaître et qui m'offre un grand nombre de possibilités.
D'accord.
Et je suis quelqu'un qui rattrape seulement un petit reste de cette vivacité.
Oui, mais en même temps, ce qui est formidable, c'est que pour le lecteur, vous nous ouvrez des portes.
Oui.
Voilà. En tout cas, un grand merci pour ça.
C'est ce qui m'arrive à moi quand j'écris. voilà. On s'ouvre la porte de Naples, le musée archéologique, mmh. de l'archéologie mmh. nationale, où mmh. il y a les statues récupérées de Ercolano et de Pompéi, sous la lave, sous les cendres de l'éruption. Mmh. Donc ce sont des statues pré-chrétiennes, c'est une nudité pré-chrétienne.
C'est autre chose encore. Oui. En tout cas, Éric de Lucas, un grand merci pour votre ouvrage. Et finalement, il y a beaucoup à lire, beaucoup à dire. Il s'agit de La nature exposée, édité chez Gallimard. Merci.
Merci à vous.